autel qui était établi par Christ sur sa maison et qui veille. Parce que voyez, ce que Jésus dit, il ne rappelle pas la violence et la corruption qui existaient au jour de Noé. Qu'est-ce qu'il dit? Au jour de Noé, qu'est-ce qu'on faisait? On mangeait. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde ne tue pas. Tout le monde n'est pas dans les hold-up. Mais tout le monde mange. Hein, c'est vrai. On nous a dit qu'il y avait du blé pour tous. Bon. Et puis, on boit. Je ne dis pas toujours de la bière hein, ou de l'alcool. Mais enfin, on boit. Et puis, ben, c'est naturel de manger et de boire. Ce sont des choses légitimes. Mais il est dit qu'au jour de Noé, c'était toutes des choses légitimes qui se passaient. En dehors de la violence, de l'injustice et de la corruption qui caractérisait aussi ce temps. Mais ce que Jésus souligne, c'est qu'au jour de Noé, on mangeait, on buvait, on se mariait, on procréait. C'était tout à fait légitime. Mais ce qu'on ne voit pas, il n'y avait pas de place pour Dieu. On ne pensait pas à Dieu. La vie continue. Dieu, qu'est-ce que c'est? Et aujourd'hui, quelle est la place que Jésus a dans la vie des gens? Dans les foyers, dans les vies personnelles, dans les foyers. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de désunion? Même dans nos églises. Est-ce que Jésus a la place centrale, ou bien est-ce que c'est le curé, ou bien est-ce que c'est le clergé, ou bien est-ce que c'est le pasteur, ou est-ce que ce sont les anciens, ou bien est-ce que c'est vraiment Jésus? Et tous, nous nous sentons des frères. Au temps de Noé, il n'y avait pas de place pour Dieu. Et l'apôtre Paul nous a dit que dans les derniers jours, les hommes seraient des ennemis de la croix de Christ, tout en ayant une croix sur la poitrine, peut-être. On peut avoir une croix comme ornement, comme décoration, mais ce n'est pas ça la croix. Et il est dit, il y en a parmi vous qui marchent, dit Paul. Et je vous le dis en riant, non, en pleurant. Ils sont devenus les ennemis de la croix du Christ. Et c'est de l'Église qu'il parle. C'est de gens dits croyants, dits chrétiens. Ils sont devenus les ennemis de la croix de Christ. Ils ont pour Dieu leur ventre. On mange, on boit. Hein. C'est ça qui compte d'abord. Écoutez les conversations du monde. Ils sont allés en vacances. Qu'est-ce que vous avez mangé? Qu'est-ce que vous avez bu? Hein? Voilà, on mange, on boit. On a fait de Dieu son ventre, et puis il est dit qu'on est ennemis de la croix de Christ, ils ont pour Dieu leur ventre. Ils font de ce qui devrait être leur honte, ils font là leur gloire. Ils se glorifient de ce qui devrait être leur honte. Quand ils reviennent de vacances, ils ne le disent peut-être pas à leur femme, mais s'ils ont pu tromper leur femme, ils l'ont fait, hein. Mais alors, à leurs camarades, ils leur racontent leur succès, féminin ou masculin. C'est quelque chose de terrible ce qui se passe dans les vacances. Ils font de ce qui devrait être leur honte, ils en font leur gloire. Et puis, la troisième chose, c'est la pire, ils ont leur pensée aux choses terribles. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Et cela, ça caractérise nos jours. C'est vrai ou c'est faux? Les gens ne pensent qu'aux choses de la terre. Combien aiment parler du Seigneur? J'aurai peut-être l'occasion de vous montrer quelques lettres que j'ai reçues de personnes qui aiment le Seigneur et qui savent en parler avec des cœurs qui brûlent. Alors, donc, nous sommes appelés à ne pas dormir. Car nous ne sommes pas de la nuit, dit saint Paul dans une autre épître, mais nous sommes des fils du jour. Et il dit, ceux qui dorment, ils dorment la nuit. Nous, nous ne sommes pas des ténèbres. On est dans un monde de ténèbres, mais nous ne pratiquons pas les œuvres des ténèbres et nous avons revêtu le Seigneur et la cuirasse de la foi. Alors, je vous ai dit tout cela pour que vous compreniez bien, dès cette première rencontre, que nos messages s'adressent à vous, comme à moi aussi, à nous qui sommes des personnes qui ont peut-être accepté Jésus. Il ne faut pas dire, ben, vous savez, on s'est demandé si on devait venir parce que vous parlez de réveil. Les gens qui doivent être réveillés, c'est les gens qui sont morts spirituellement dans leurs fautes et dans leurs péchés. Il faut qu'ils connaissent l'Évangile. Mais nous qui avons été réveillés par la parole de Dieu, est-ce que nous ne nous sommes pas peut-être endormis? C'est pourquoi je voudrais terminer cette retraite par la parabole des 10 vierges, pour que vous soyez bien convaincus que ce n'est pas moi qui dis cela, mais le Seigneur qui a annoncé que le royaume des cieux serait fait semblable à 10 vierges Et qu'est-ce qu'il est dit de ces 10 vierges? Elles s'endormirent toutes. Dans ces vierges, il y en avait 5 qui étaient folles, puis il y en a 5 qui étaient sages, qui étaient prudentes. Mais elles avaient tous le même vêtement, elles avaient tous la même qualité de vierge, elles avaient tous une lampe. Mais dans les lampes des unes, il y avait de l'huile, tandis que dans les lampes des autres, il n'y avait pas de réserve. Mais la profession, on l'avait. C'était la même profession pour les 10. Mais en vérité, il n'y en avait que 5. Mais même ces 5 qui avaient de l'huile, qu'est-ce qu'elles ont fait? Parce que l'époux tardait, elles se sont endormies. Elles s'endormirent toutes. Et qu'est-ce qu'il a fallu, chapitre 25 de Matthieu, pour les réveiller? C'est d'entendre un cri. Le cri de minuit, voici l'époux sortait à sa rencontre. Et alors, elles se réveillent, et celles qui sont prêtes peuvent entrer, tandis que les autres voient que leurs lampes s'éteignent. Et quand elles arrivent, la porte est fermée, il est trop tard, c'est comme les gens qui, quand la porte de l'arche de Noé fut fermée, on pouvait bien venir frapper, Noé, Noé, ouvre-nous! On voit la pluie, mais on n'y a pas cru, mais l'eau monte, ouvre-nous! Et qu'est-ce que Noé pouvait faire? Rien. Qui est-ce qui avait fermé la porte? C'était Dieu. Comprenez-vous? Ce n'est pas nous qui pouvons sauver les hommes. Nous pouvons leur annoncer la parole. Nous pouvons les avertir. Mais nous ne pouvons pas les contraindre d'entrer. On voudrait bien, comme il l'a dit, contraindre les gens d'entrer. Mais on ne peut pas faire cela. Alors, que la grâce de Dieu nous fasse comprendre ces choses. Et si je souligne tout cela, c'est parce que je voudrais que tous, nous nous sentions concernés. Jésus, voyez-vous, vous l'avez dit, il est devenu votre sauveur. Et comment est-ce qu'il devient notre sauveur? Par la grâce, par le moyen de la foi. Quand on accepte sa grâce et qu'on croit sa parole, Jésus devient notre sauveur. Mais en marchant avec lui depuis qu'il nous a sauvés, s'il nous a sauvés, s'il nous a rachetés, à qui est-ce que nous appartenons? À Jésus. Nous ne sommes plus à nous-mêmes, mais nous avons un maître. C'est lui qui est notre Seigneur et qui a tous les droits sur nos cœurs et c'est lui qui va nous conduire. Alors, c'est un mot d'avoir accepté Jésus comme sauveur. Au Québec, je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui aiment bien ça. Hein? On accepte Jésus comme sauveur. Mais vous qui l'avez accepté comme sauveur, l'avez-vous reconnu comme votre Seigneur? C'est-à-dire celui qui décide dans vos vies. Celui qui vous dit ce qui est juste et ce qui est faux. Vous avez maintenant un maître, vous n'êtes plus à vous-même. Ce n'est pas vous qui décidez, ce n'est pas vous qui conduisez vos pas, mais vous vous laissez conduire par lui. Et alors, dans cette marche, avec ce maître, qu'est-ce que ce Jésus devient pour vous? Votre sauveur, votre Seigneur, mais votre bien-aimé. Et voyez-vous, c'est à cela qu'il faut parvenir. Que Jésus soit celui que vous aimez, par-dessus toute autre chose, celui que vous préférez à tout, même à un fiancé qui n'aime pas au Seigneur. Là, il n'y a pas d'hésitation, c'est non. Parce qu'on ne se met pas sous un joug étranger avec un infidèle. Il n'y a pas besoin de venir demander conseil à M. X, pasteur ou prêtre, pour savoir si c'est le bon chemin. Si ce n'est pas une personne au Seigneur, ou si la jeune fille, qui est peut-être très belle, très gentille, tout ce que vous voulez, n'est pas au Seigneur, ce n'est pas le chemin, en tout cas pour le moment. Alors, il faut savoir prendre des décisions. Pourquoi? Parce qu'on nous préférons qui? Christ. Nous avons un bien-aimé. Et quand on a un bien-aimé, nous pouvons dire non à tous les autres prétendants. Parce que vous en aurez toujours. Vous aurez toujours des gens qui vous feront des sollicitations. Non, vous êtes engagé avec le Seigneur. C'est quelque chose de clair. Il n'y a pas besoin de lui demander si c'est ta volonté. Puis il n'y a pas besoin de lui dire, oh ben tu sais, si je le fréquente, ben je pourrais l'amener moi-même au Seigneur. C'est trop dangereux, ça. Croyez que le Seigneur peut l'amener, mais ne prétendez pas que vous pourrez l'amener. Parce que, vous savez, nous autres, les hommes, nous sommes des fiefs et menteurs. Nous faisons toutes les promesses possibles. Oui, quand on sera marié, tu verras, j'irai à ton église, etc., etc. Marguerite Diouville a réalisé cela. Elle est pieuse, elle le sera pour les deux. Puis la pauvre, elle a souffert. Alors, souvenons-nous de ces exemples qui nous enseignent encore, comme le son d'Abel, hein, quoique mort, il parle encore. C'est cela. Alors, vous savez, on a une richesse dans ce monde, dans tous ces exemples. Il n'est pas question qu'elle soit d'une église ou d'une autre, mais il y a des vies qui nous parlent et nous nous sentons en communion avec tous ceux qui ont été fidèles avec le Seigneur. Et je voudrais souligner ici que personne n'est à l'abri d'une tendance à un certain assoupissement qui se transforme en sommeil spirituel. Est-ce que vous dites, mais moi, ça m'arrivera jamais de m'endormir spirituellement. J'ai passé par un tel réveil à ma conversion que maintenant je ne peux plus m'endormir. Vous croyez que c'est vrai, ça? En tout cas, ce n'est pas mon cas. Et quelles sont les causes de ces assoupissements spirituels qui peuvent nous arriver à tous? Et personne ne peut prétendre que ça ne lui arrivera pas. Bien, c'est d'abord le manque de vigilance. Voyez-vous, il est dit que pendant que, si je cite Matthieu 13 dans les paraboles, versets 25 à 27, quand est-ce que l'ivré a été jeté dans le champ où avait été semé le bon grain, pendant que les serviteurs dormaient? La fausse doctrine est entrée. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de fausses doctrines aujourd'hui? C'est parce que ceux qui devraient servir se sont endormis et on a laissé tout faire. Alors la fausse doctrine a été semée et c'est le grand mélange aujourd'hui. L'ivré et le bon grain. Et voyez-vous, on pourrait faire des rapprochements avec les églises de l'Apocalypse pour montrer justement où conduit le manque de vigilance. Et prenez-moi un homme de la Bible, qui était pourtant un homme de Dieu, un homme qui avait une force formidable, mais qui s'est assoupi plusieurs fois. Et qui a pensé que quand il se réveillerait, parce qu'on pense toujours, il doit y avoir un réveil, hein. Qu'est-ce que c'est le réveil? Non, c'est quitter le sommeil pour arriver à l'état de veille.
Mais des fois, le réveil, il vient trop tard. À qui pensez-vous? À Samson, hein? Samson, quand il s'est réveillé un jour, il croyait qu'il aurait la force. Quand Delilah lui a dit, les Philistins sont sur toi, sa force, il ne l'avait plus. Attention, nous allons étudier les réveils, hein? Mais pas n'importe quel réveil. Pas un réveil à la Samson. Bien sûr, les cheveux ont poussé. Puis vous me direz, mais Samson a quand même été sauvé, il a reçu la force de nouveau. Oui, mais il avait les cicatrices de son péché. Il est mort aveugle. C'est pas tellement une belle fin, ça. Les conséquences de nos inconséquences. Alors, faisons attention. Le manque de vigilance nous amène à l'assoupissement. C'était le cas de Samson. Mais aussi l'abandon du premier amour. Prenez Éphèse. Éphèse a été dans le premier amour dans cette église. Puis, à qui est-ce que vous pourriez penser? Un autre homme qui a été réveillé, pourtant qui était un serviteur de Dieu, même un prophète, qui a été dans le premier amour, il a été un témoin de Dieu à un moment donné. Puis un jour, Dieu lui a donné un ordre. Comme ça ne lui plaisait pas. Il a désobéi. Il a même pris un bateau. Il a loué sa place. Puis il est allé au fond du bateau pour dormir. Dodo, Jonas. Et qu'est-ce qu'il a fallu pour le réveiller? Une tempête. Et quelquefois, pour nous réveiller, à nous, il nous faut une tempête. Que fais-tu là, dormeur? Jonas. Hein? Voilà encore un autre réveil. Hein? Réveil de Samson, réveil de Jonas. Mon but, je vais vous le dire tout à l'heure encore, si vous avez quelques minutes de patience, je voudrais vous donner le goût de l'Ancien Testament pour vous montrer tous les exemples que nous pouvons y trouver et comment on peut manger cette parole et combien elle restera dans nos cœurs et quand on aura une décision à prendre ou qu'on aura envie de dormir, on se dira, est-ce que c'est le sommeil de Samson que je suis en train de vivre ou bien est-ce que c'est le sommeil de Jonas? Puis prenez, maintenant, Jésus lui-même nous a dit, les excès du manger et du boire, et les soucis de la vie appesantissent nos cœurs. Quand on a trop bien mangé et trop bien bu, qu'est-ce qu'on a envie de faire? D'aller à une réunion, de réveil, pour taper les clous. C'est pas vrai, hein? C'est pourquoi j'ai dit, avant une réunion, si vous m'aimez, hein, ne me faites pas trop manger. Non, mais parce que tout le monde, aussi bien le prédicateur que les auditeurs, on a envie de dormir après un trop bon repas. Alors, sachons nous discipliner, parce qu'il y a des choses qui sont naturelles. Quel est le réveil qu'on pourrait prendre là? Un autre homme, on a pris Samson, on a pris Jonas. Mais un qui avait bu un peu trop, peut-être parce qu'il ne savait pas trop ce que c'était ce boisson-là. Noé! Et qu'est-ce qui est arrivé à ce brave Noé d'avoir bu? Il s'est déshabillé, puis il a oublié de se couvrir. Paf! Il s'endort, tout lui. Oh, mais il y a des nudistes aujourd'hui, c'est une grave affaire. Oui, mais son petit-fils l'a vu. Il est allé raconter ça à toute la famille. Alors il y en a un qui a dû regarder. Puis il a raconté ça à ses frères. Mais les frères ont pris une couverture, ils sont allés à Arcelon, puis ils ont couvert le vieux, le père. Mais vous voyez que ça peut nous arriver à tous les âges. Le réveil de Noé, qui sort de son vin. Il est dit ça dans le chapitre 9 de la Genèse, quand il se réveilla de son vin. Vous pourriez dire de sa bière, ou je ne sais quoi, aujourd'hui. Mais c'est vrai. Puis il y a aussi ce qui pourrait nous pousser au découragement, à l'assoupissement, c'est le découragement. Vous avez des périodes de découragement. Vous avez passé par toutes sortes d'épreuves, puis il y a la maladie, puis voilà, on est découragé, et puis on a des mauvaises nouvelles. Alors, voyez-vous, la tristesse du monde peut nous amener au sommeil. Est-ce que j'ai des exemples bibliques? pour justifier cette pensée qu'on peut s'endormir de tristesse. Finalement, vous vous endormez. Je prends Élie. Élie a peur d'une femme, le prophète. Hein, pourtant, c'est un grand prophète. Et il fuit la colère d'une femme. Puis comme il est fatigué, il s'arrête dans le désert et il se couche où ? Sous un genêt. C'est un arbuste. Et puis c'est un ange qui vient le réveiller. Et qui lui dit, mange, bois. Le chemin est long pour toi. S'il ne faut pas faire de l'abus dans le manger et le boire, il faut boire et manger ce qui est nécessaire. L'ange prend soin de lui. Mais Élie était découragé et il s'est recouché après ça. Et l'ange a dû le réveiller une seconde fois et lui redire, mange, tu n'as pas assez mangé. Mange, car le chemin est long pour toi. Alors, voilà un exemple, le réveil d'Élie, mais par un ange, mais qui s'est endormi de découragement, mais plus proche du Seigneur. La nuit même où il fut livré, Jésus avait demandé à 3 de ses disciples de prier pour lui, alors qu'il était sur le rocher de l'agonie. Et quand il est allé, qu'est-ce qu'il a trouvé ? 3 disciples endormis, et il est dit de quoi ? De tristesse. Donc vous voyez que la tristesse peut nous amener aussi au sommeil, sans avoir pris du Valium. La tristesse peut nous amener au sommeil. Et les 3 disciples, mais ils avaient dormi aussi dans une autre occasion. Quand sur la sainte montagne, vous avez une vision merveilleuse de la gloire du Seigneur, qu'on n'est pas capable de supporter ça, et on s'endort. Je n'invente rien, c'est tout dans la Bible, ça. Hein. Vous avez cela, ils se sont endormis sur la montagne de la Transfiguration. Luc 9, verset 32. Alors, on a eu une vision merveilleuse. Puis qu'est-ce qu'on sait en dire ? Paul, lui, il était prudent. Hein. Quand il a été ravi au troisième ciel, puis qu'il est revenu sur la terre, il a dit qu'il avait entendu des choses ineffable, qui n'était pas permis à l'homme d'exprimer. Tandis que Pierre, Jacques et Jean, mais c'est Pierre qui prenait toujours la parole, quand ils ont eu la vision de la gloire du Seigneur, qu'ils s'est endormi, ils sont endormis, quand il est revenu à lui dans ce réveil, il a voulu parler. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Des bêtises. Des bêtises. Il ne savait que dire. Alors il a dit, faisons ici 3 temps. Ça les aurait tous divisés. Alors que le Seigneur allait les couvrir de la nuit glorieuse et qu'ils seraient tous ensemble. Mais même quand on a une vision, on a des visions. Maintenant, nous allons fonder des églises au Québec, telle église avec tel nom, telle église avec tel nom, telle autre église avec tel nom. Alors que le Seigneur voudrait tous nous rassembler sous la nuit glorieuse. Mais vous avez un tas de gens qui vous disent aujourd'hui qu'ils ont eu des visions. Jusqu'à l'an 2000, le nombre d'églises qu'ils vont fonder pour tel milieu, pour tel autre. Attention, attention. Souvenez-vous que même quand on a des visions, on peut divaguer. Et Jérémie nous montre bien ce danger dans le chapitre 23 de son livre. Puis il y a aussi ce qui nous amène au sommeil, les préoccupations des choses terrestres. Je l'ai cité, Philippiens 3, verset 18. On est préoccupé des choses de la terre, et alors il y a les soucis de ce siècle, la séduction des richesses, l'invasion des convoitises, les plaisirs de la vie. Tout cela nous amène au sommeil spirituel. Et ça a été le cas de David, ça a été le cas aussi de Salomon. Ils se sont endormis dans ces biens-là. Alors veillons. Puis, je dirais, c'est la tiédeur de Laodicée, on se croit riche, enrichi, n'ayant besoin de rien. Mon église, il n'y a pas une église aussi réveillée que la mienne. On attend. Puis tu ne sais pas, dit Jésus, tu es pauvre, aveugle et nu. Voilà ce que dit Jésus. Alors, ne parlons pas toujours de notre église. Je l'ai dit l'autre jour à la Villa Shalom, hein. Il y a des gens qui cherchent toujours une meilleure église que celle où ils sont. et ils pensent avoir trouvé. Mais une fois qu'ils y sont, elle n'est plus parfaite. Parce que moi, je ne suis pas parfait. Si je m'en vais dans une église, alors j'apporte mes imperfections. Vous croyez avoir trouvé la meilleure église? Faites attention. Une fois que vous y serez, ce n'est pas la bonne. Ce n'est pas la meilleure. Vous devez y aller en sachant votre faiblesse, votre misère. Et alors, surtout, veillez à ne pas vous croire réveillé alors que vous êtes endormi. C'est un verset que j'aime beaucoup, parce qu'il m'a stimulé dans le livre d'Ésaïe. Il est parlé de cette illusion de se croire réveillé alors que l'on dort, hein, comme aussi dans Sardes. Tu as le nom de vivre et tu es mort. Hein. Spirituellement, tu es mort. Mais dans Ésaïe, je vous cite ce texte, Ésaïe 29, verset 8, où nous voyons qu'il est possible d'avoir faim et de rêver que l'on mange. Ils rêvent qu'ils ont faim et qu'ils mangent. Puis, quand il s'éveille, l'estomac est vide. Attention à ça. Hein. Et puis, il est même dit ensuite qu'il est possible de rêver que l'on boit, puis de s'éveiller, épuisé et l'homme du sort. Et pourtant, pendant notre rêve, on avait l'impression de se désaltérer. Eh bien, il y a des gens qui rêvent dans les églises. Ils rêvent de ce rêve que vous devez sortir. Ils rêvent qu'ils mangent et ils ne sont pas nourris. Ils rêvent qu'ils boivent et ils ne sont pas désaltérés. Il faut revenir à la réalité et il faut se sentir concerné. L'heure est venue pour chacun de nous de ne plus dormir pour échapper aux illusions du rêve. Je vous ai rappelé le texte des Thessaloniciens qui dit « Ceux qui dorment, dorment la nuit, mais nous, nous ne sommes pas des enfants des ténèbres, mais des fils du jour, des fils de la lumière. » C'est pourquoi, et c'est mon dernier verset que je vous cite ce soir, dans cette introduction générale, nous acceptons dès ce soir l'appel du prophète Ésaïe que Paul a repris en écrivant sa lettre aux Corinthiens, aux Éphésiens. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et le Christ t'éclairera. Éphésiens 5, verset 14. Et voyez-vous, c'est ce verset qui est un des versets classiques d'où est sorti dans le monde religieux les expressions courantes que nous entendons souvent. Il y a un réveil dans ce pays, ou dans cette église, ou c'est un homme de réveil, cet homme c'est un revivaliste. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Donc il y a deux catégories. Il y a des gens qui sont morts, qui dorment du sommeil de la mort, qui doivent passer par la conversion, par une renaissance spirituelle. Mais si je dors parmi les morts, c'est que j'ai la vie. Quelqu'un qui dort, il a la vie. Il sait qu'il s'est recouché. Et nous sommes endormis. Alors voyez-vous, que personne ici ne dise « Cette retraite ne nous concerne pas. » Nous allons voir dans les jours qui viennent, et je vais me laisser conduire pas à pas, c'est pour ça que nous arrêtons ici. Demain, nous irons plus loin et nous poserons quelques questions au sujet de ce que c'est vraiment le réveil et par quels moyens pouvons-nous être réveillés? Par quel moyen? Quel est le moyen qui peut réveiller quelqu'un? Qu'est-ce que vous lui faites? Oui. Et qu'est-ce que vous lui dites? Vous lui parlez, vous l'appelez. Eh bien, je veux demander au Seigneur que vous entendiez déjà cette nuit l'appel du Seigneur. Sur un point ou sur un autre. C'est par la parole que l'on est réveillé. C'est par la parole qui nous pénètre, qui nous stimule, et on prend de nouveau conscience que nous nous étions assoupis. Alors, dès demain matin, nous aborderons ce mot de réveil et nous espérons qu'au travers de ces moments, vos âmes seront édifiées. Maintenant, je voudrais simplement vous donner un peu le plan de ces journées. Nous allons avoir une collation maintenant et où est-ce que j'ai mon... Oui. L'horaire. À 10h15, c'est exactement l'heure, hein, c'est la collation. À 22h45, dans une demi-heure, c'est le coucher. Vous aurez besoin de repos. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigué. Qu'il y en a vraiment qui sont au bout du rouleau. C'était trop long. Bon. Alors, nous vous souhaiterons une heureuse nuit, une nuit de repos, parce que le Seigneur sait nous réveiller, mais il sait aussi nous donner du sommeil. C'est un verset que nous citerons. Il donne du sommeil à ses bien-aimés. Et il peut même vous parler dans votre sommeil. Alors, demain matin, André, tu es toujours d'accord? Alors, André passera dans les couloirs et vous entendrez le violon. Sa merveilleuse musique, qui nous réveille en musique. Alors, quand vous entendez le violon, ça veut dire que c'est 7h. Vous n'avez pas besoin de mettre votre réveil, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Quand vous entendrez le violon, ça veut dire que c'est 7h. Alors, vous vous levez tranquillement, et puis vous faites vos ablutions, ce que vous voulez. Et alors, à 7h45, on se retrouve ici. Quand vous avez fini, vous venez ici, mais ce qu'on vous demande, c'est de venir ici en silence. Et vous occupez les sièges que vous voulez ici, et vous restez dans la prière, dans le silence. Je vous retrouve à 8h15, donc une assemblée dans le silence. Car il est dit que le silence, c'est une louange. Vous êtes recueillis et vous vous préparez dans la journée. Ça ne veut pas dire que être silencieux et être vide, hein. Vous pouvez apporter vos louanges, vos prières au Seigneur, mais déjà dans le silence. Puis, si André est d'accord, on va commencer, dès que nous serons ensemble, par ce cantique. On essaiera de chanter ce cantique, hein, une fois. Les trois strophes de ce cantique. Je vous apporterai une parole que vous trouverez inscrite ici, parce que moi, elle est passée. La parole du jour. Aujourd'hui, je l'ai pas mis parce que j'ai simplement voulu mettre. Ce qui nous occupera, c'est l'autel sur son fondement. Mais ce que je suis en train de faire, c'est une préparation maintenant. Mais le thème, ce sera l'autel sur son fondement. C'est notre thème d'aujourd'hui. Premier volet. Le deuxième volet, ce sera, nous parlerons de la maison sur ses fondations. C'est au mois d'octobre. Et puis, le troisième volet, ce sera les murailles sur le remplacement. Quand il y a un réveil, eh bien, la croix est remise à sa place, la maison spirituelle sur ses fondations, puis on verra les difficultés que l'on peut rencontrer, et puis alors les murailles qui nous séparent sur le remplacement. Et non pas des murailles entre chrétiens, entre croyants, mais des murailles entre le monde impie, et ceux qui aiment le Seigneur. Il ne faut pas mettre les murailles à une autre place. Ça, c'est le livre de Néhémie que nous aurons l'occasion de lire. Et oui, c'est déjà l'heure de vous réveiller du sommeil. C'était le verset de ce soir. C'est Romains chapitre 13. Depuis le verset 11 à 14, je vois que voilà. Et ensuite, c'est 8 heures, Noël. Ça reste à 8 heures. À 8 heures, on aura le petit déjeuner à la cafétéria. Et à 9 heures, on se retrouve tous ici. Et là, on vous dira dans quel groupe vous aurez été mis. Et pendant une demi-heure, vous retournerez chacun dans vos chambres pour lire les portions que je vous dirai. Vous allez lire pour vous-même, seul, pendant une demi-heure, les textes sur lesquels ensuite vous allez pouvoir discuter avec votre groupe. Et nous avons réparti en 8 groupes. C'est 8, hein, je crois, oui. Et vous verrez les noms. Et là, vous pourrez partager ensemble. Et à 9h45, donc après vos partages, à 9h15, la lecture personnelle dans les chambres, 9h45, les ateliers et partage, et à 10h15, vous venez ici pour la collation, et à 10h30, je vous ferai le deuxième exposé biblique sur l'étude que vous aurez faite. Alors, priez pour moi, parce que je ne sais pas quel groupe il y aurait encore, alors je dois aussi m'y préparer, c'est fini. Je dois me tenir devant Dieu, c'est fini, pour la suite. J'espère que le commencement, vous l'avez bien compris, et puis nous allons continuer. C'est une retraite qui se bâtit. Ce n'est pas du tout plaqué que je vous apporte. On va bâtir ensemble. Hein. À midi, c'est aussi l'été à midi, nous aurons le dîner. C'est parce qu'il y a un autre groupe qui est là. Alors. Midi, ce sera le dîner, puis jusqu'à 2h, vous avez toute liberté de vous reposer ou de faire une promenade. Comme aujourd'hui, c'était très beau. Il y a un chemin qui fait le tour de la propriété, là où il y a le cimetière des Sœurs Grises. Et puis, vous voyez tout Montréal, tout le lac. C'est très beau. Vous pouvez vous promener s'il fait beau. Puis, à 2h, on se retrouve ici. Je vous donne les textes à lire. Vous allez dans vos chambres, une demi-heure de lecture personnelle, de méditation, où vous pouvez mettre vos pensées, puis après vous rejoignez vos groupes, et c'est le partage. Et ensuite, alors, à 15h15, une collation ici, on se retrouve, et à 15h30, je vous fais le troisième exposé biblique. À 5h30, c'est le souper. À 7h30, nous aurons un moment de chant, si c'est d'accord, le chant pour se détendre un peu, ici dans la grande salle, et il est possible qu'au lieu de la lecture personnelle, on ait tout de suite la rencontre, ici, parce que je voudrais vous introduire dans le Nouveau Testament, et pour qu'on puisse avancer. Peut-être qu'au lieu de retourner dans vos chambres, on fera immédiatement ici la rencontre. Et ça, c'est encore à voir avec le Seigneur. Et à 21h, donc, l'exposé biblique, puis à la collation. Puis alors, le dimanche, ce sera la même horaire, à 7h levée, 7h45 méditation, grande salle, déjeuner à 8h, puis rassemblement à 9h, on retourne une demi-heure alors dans nos chambres, et puis une demi-heure de partage dans l'atelier. Vous apprenez ainsi un peu à vous connaître, et vous pouvez vous exprimer dans des petits groupes. Et à 10h30, un exposé biblique, et à 12h, ce sera le dîner. Puis à 1h30, alors nous aurons un dernier exposé, je vous ai dit, ce sera sur les vierges, et ça aboutira à au repas du Seigneur. Nous aurons l'occasion de vous en dire quelques mots. Est-ce qu'il y a des questions? Tout le monde a trouvé sa chambre, mais pas trop malheureux. Les couples séparés, vous devez dire quand même, ces retraites, ils séparent les couples. Non, mais c'est biblique pour un peu de temps. On essaye d'être biblique, même, là. Parce que vous voyez, c'est des fois bon, hein, ça. On ne vous êtes pas si loin les uns des autres. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier, te bénir, parce que tu nous as permis de commencer cette retraite dans cette nouvelle année. Et nous voulons te demander que ces versets que nous avons lus puissent parler à nos cœurs, que nous puissions savoir dans quel temps nous sommes, et qu'au lieu d'être angoissés, inquiets, nous puissions nous réjouir de savoir que tu es la réponse. Et que tu vas bientôt venir. Mais que nous soyons alors stimulés, prêts, pour pouvoir t'accueillir. Toi qui nous as sauvés, qui nous as tant aimés, qui nous a préparé une place auprès de toi, et qui nous prendra, peut-être sans que nous ayons besoin de passer par la mort, être enlevés auprès de toi, pour entrer dans les aimables demeures de la maison du Père. Que ces choses occupent nos pensées, que tu deviennes vraiment le bien-aimé de notre cœur, et que là où est notre trésor, là aussi déjà, soit notre cœur. En Jésus. Amen.